Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Mais n'y pas, jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
Quand on est gentil, hein, on est toujours gentil.
C'est le capitalisme, mais n'y pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Voilà. Le vin qui dit vin, dit porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Te verrons.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Lundi 19h, on passe au rouge sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence libre, campuslille.com et la radio numérique terrestre. L'émission qui annonce la couleur, c'est le dernier lundi du mois avec l'heure des proles, notre émission mensuelle, une émission réalisée par Jean-Jacques qui s'est fait gifler par Fabienne juste avant qu'on ouvre les micros.
Comme certains, bien connus. Ça, c'est la vanne du début.
Voilà.
Voilà. Et puis il y a bien sûr Fabienne qui offre sa voiture à la fourrière, apparemment. Écoute,
c'est sympa.
Ah non, elle, ça la fait pas rire.
Non, effectivement. Et Seb, tu as.
Aïe. Non, s'il te plaît, vas-y, Molo, s'il te plaît. Vas-y, Molo.
Tu as décidé de souhaiter la fête à toutes les mamans hier. Bon, histoire de se rappeler de la mémoire du maréchal Pétain.
Oh, oh bon, je le savais. Il y avait une machine à
balance.
Nous avons trois invités sur le plateau de l'heure des proles. Yolande Windels, on vous a déjà reçu sur ce plateau. C'était le 6 décembre 2023, une émission qu'on peut réécouter sur IRSIS pour parler de Delair, cette association qui lutte entre autres combats contre l'expulsion d'habitants du quartier de Bois Blanc. Combien de locataires, William ou Yolande, Land Windels ont été relogés. Et quel autre combat menez-vous, s'il vous plaît?
Alors, sur les 350 familles, il en reste à peu près 70 aujourd'hui aux aviateurs. Donc, voilà. Donc, ça avance fort du côté de Villogia. Et sinon, effectivement, donc là, on est beaucoup connu pour la situation des locataires des aviateurs. Mais en fait, Delair s'est créé en 2022 sur un champ beaucoup plus large en termes d'urbanisme, puisque sur nos quartiers de Bois-Blanc-Marais, on a un énorme projet urbain de 100 hectares qui s'appelle les rives de la Haudeule. Donc en fait, nous, notre lutte, c'est lutter contre la densification, pour plus de nature, moins de béton, pour plus de nature en ville et du logement pour tous, et notamment du logement social et très social, en gros.
On aura l'occasion d'en parler pendant cette émission.
Alors Jean-Michel, vous êtes membre de l'association Parc Saint-Sauveur qui a combattu le projet immobilier. Pouvez-vous résumer votre lutte en quelques mots?
Oui, bonjour à tous.
Alors, on a un petit problème de micro qu'on va tout de suite résoudre. Jean-Michel, je vous en prie, vous pouvez...
Oui.
Voilà, on vous entend.
Voilà, bonjour. Effectivement, donc Parc Saint-Sauveur, qui avait pour objectif de lutter contre le projet de construction présentée par la mairie de Lille et la MEL sur l'emprise de la friche Saint-Sauveur. Et donc effectivement, on a créé cette association pour...
À Lille, oui.
À Lille, oui, tout à fait, oui. On a créé cette association pour aller au niveau du juridique, contrer un petit peu les choses et puis aussi faire connaître la friche parce qu'il fallait la dévoiler et parler effectivement aussi de bétonisation, d'espace vert.
Mais vous avez perdu là, non, cette bataille?
Non, on est en train de la gagner.
Au contraire. On va en parler. Il y a de bonnes nouvelles.
Oui, parce que nous aurons aussi Aude Van Est, membre du collectif du Stoir, qui défend les intérêts des habitants de Fives, mais qui a beaucoup œuvré contre le stationnement payant à Lille.
Oui, on passera un petit coup de fil tout à l'heure. Laurent Lefebvre, on ne va pas vous voyez, hein, puisque nos plus anciens auditeurs reconnaîtront ta voix. Tu nous as accompagnés au début de On passe au rouge. Il y a 7 ou 8 ans.
En effet, bien qu'à l'époque, je venais du futur.
C'est vrai, c'est à écouter aussi, hein, sur IRSIS, on peut retrouver ces émissions. Alors déjà, comment on vit sans faire de radio pendant toutes ces années?
C'était il y a 5 minutes, puisque j'ai emprunté la machine à remonter le temps.
Ah d'accord, oui, bon, ça, du coup c'est plus simple. Et l'assaut des deux faubourgs, alors ça t'a occupé, qu'est-ce que c'est en quelques mots?
Alors l'assaut des deux faubourgs, c'est une asso qui anime, qui fait des événements sur le quartier qu'on a nous-mêmes nommé des deux faubourgs. C'est une partie de l'île sud qui se trouve à la frontière de Ronchin et de Fâche-Thumesnil, entre les faubourgs de Douai et le faubourg d'Arras. Et donc c'est une asso où il y a beaucoup de petits pavillons et quelques immeubles, des logements sociaux, des grands ensembles. Et comme pour beaucoup de quartiers qui se trouvent en périphérie, on a du mal à trouver un lieu où se croiser, ou se rencontrer, ou créer du vivre ensemble. Et pour beaucoup, c'est donc l'école qui se trouve en plein cœur du quartier, qui permet aux habitants de se rencontrer, de se sociabiliser. Et donc, dans ce cadre-là, souvent, les habitants nous disent on habitait les uns à côté des autres, mais on ne se connaissait pas avant d'avoir des enfants. Alors, vous imaginez qu'en 2021, quand la mairie a annoncé de vouloir déplacer l'école à la périphérie du quartier, pas loin de l'autoroute, on est monté au créneau, c'est ce que je vais vous raconter.
Exactement. Et vous avez gagné.
Et on a perdu.
Pardon.
Là, non.
Je me trompe à tous les coups. Mais avant ça, qu'avons-nous à déclarer, Fabienne?
Je vais revenir sur la fête des mères. Et deux
bon, j'y suis pour rien, sérieux. J'y suis pour rien. J'ai même oublié la mienne. Alors, tout va bien.
Deux citations. Une de Golda Meir, qui fut une des premières premiers ministres israéliennes. Nous pouvons pardonner aux Arabes d'avoir tué nos enfants. Nous ne pouvons pas leur pardonner de nous avoir obligés à tuer leurs enfants.
La vache.
Bon. Et la deuxième citation, c'était une ministre de la justice israélienne, je ne me souviens plus de son nom, qui disait qu'il fallait arracher les bébés palestiniens des ventres de leur mère pour que la race ne se reproduise pas.
Oh.
Je pense que, dans le cadre de la guerre qui a cours actuellement, d'ailleurs ce n'est pas une guerre, c'est un génocide qui a cours là-bas, on ne peut rendre qu'honneur aux femmes palestiniennes qui continuent à avoir des enfants. Parce que avoir des enfants, c'est résister, c'est se battre pour l'avenir de Gaza et de la Palestine. Et toi, Jean-Jacques, qu'as-tu à déclarer?
Oui, j'ai remarqué là il y a quelques jours sur une radio publique très écoutée. J'écoutais soudain quand il se trouvait que l'invité c'était Jordan Bardella. Donc je me préparais à repasser sur Radio Campus, mais je me suis dit, tiens, non, allez, il faut savoir écouter ses ennemis pour mieux les combattre. Alors bon, je l'entends parler de l'Ukraine, de la Palestine, du droit à mourir, je me dis, c'est un discours de droite classique, finalement, même Macron pourrait dire ça. Et là, le journaliste lui demande s'il ne se retrouve pas dans la politique de Retailleau. Et là, ça devient intéressant parce que, en vrai, on peut se demander ce qui les distingue. Retailleau qui crie à bas le voile, qui sort un rapport creux sur les frères musulmans, comme une cinquième colonne en France, qui dit que l'état de droit n'est pas sacré. Et c'est là qu'il doit se distinguer. Alors là, il dit que lui, il agira, que l'autre ne fait que parler. Et il bredouille. Il trouve deux trucs. Supprimer l'aide médicale d'État. Hein, on sait toutes les conséquences que ça pourrait avoir en termes de diffusion d'épidémie. Et interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires. Voilà ce qu'il distingue de Retailleau dans ses termes. Taper sur les étrangers et, comme par hasard, encore sur les musulmans. Et toi, Seb, qu'as-tu à déclarer?
Eh bien, moi, je transpire de pardon pour mon camarade de radio, Hervé. Les véritables problèmes techniques de la semaine dernière ont permis la diffusion de propos regrettables. Ça arrive. J'en voulais à mon pote de ne pas m'avoir épongé le front quand je plongeais sous la table de mixage pour la rebooter en pleine émission, bien foutue, sur les Palestiniens broyés. M'en veux pas, Hervé. Je continuerai à bien annoncer le kaléidoscope Culture Plus chaque lundi de 22h à minuit, comme je le fais depuis maintenant des années.
On passe au rouge, retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Le dernier lundi du mois, c'est l'heure des proles dans On passe au rouge.
On commence par une devinette, hein, nos trois invités. On va entendre des gens parler de quelqu'un et on va vous demander de qui parlent ces gens.
À l'inventeur. Ouais. Et elle ne sait pas toujours le mettre en avant, mais elle a un cartel.
Son départ, c'est quelque chose qui vraiment affecte beaucoup les gens.
Moi, je veux Martine Aubry. Je dirais Martine Aubry.
Tête de la ville.
Les questions et les réponses.
Et là, je reconnais que vu les travaux
qui ont été faits
dans l'île, piste cyclable, implantation d'arbres, je reconnais que c'est magnifique.
C'est magnifique le travail de Martine Aubry.
Alors bon, d'accord, ok, ça tombe à plat. Bah, on va pas faire hein, ici un débat sur pour ou contre Martine Aubry. Hein.
Contre, pardon.
Bon, d'accord, mais remarquez le concert de louanges qu'on a entendu après l'annonce de sa démission, qui est entre nous un moyen pour placer, mettre en selle son successeur. Hein.
Bah, c'est pas facile de dire du mal, parce que quand on est une association lilloise et qu'on continue à toucher des subventions, on n'a pas envie de venir à Radio Campus pour cracher dans le soupa.
Ouais. On va pas vous demander de le faire, hein, nous, chers invités, mais on a souvent entendu, hein, nous qui sommes sur la place de Lille depuis des décennies.
Oh oui.
Elle était déjà en poste d'ailleurs, je crois que ça fait 21 ou 24, je sais plus. On a entendu des vertes et des pas mûres, notamment sur la question de la démocratie participative.
Ouh là 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 là.
On a souvent entendu dire que à Lille, la démocratie participative, bah, c'était choisir la couleur des plates-bandes, en gros. Alors, bah, je me tourne tout de suite vers Laurent Lefebvre et pour lui poser cette question de la démocratie participative, il va pouvoir nous expliquer de cette manière-là ce qu'ils ont mené comme lutte contre le déplacement de cette école.
Et ben justement, habituellement, l'asso des Deux Vaubourg, c'est une asso qui organise surtout des événements, donc qui ne fait pas trop de démocratie participative. On organise des braderies, on organise des fêtes des jardins, etc. Et en 2021, il y a une envie des militants de l'association de travailler sur l'avenir du quartier. Donc on fait une petite enquête auprès d'une centaine d'habitants sur cette partie de l'île sud, donc pour demander leur pour recenser un petit peu les besoins en matière de commerce, de services publics. On fait réaliser des cartes participatives qui posent la question des lieux à développer pour travailler sur le vivre ensemble dans le quartier, des lieux aussi accidentogènes dans le quartier en matière de transport, de vélo, de piste cyclable, tout ça. Et donc il apparaît que l'un des principaux lieux de rencontre s'établit évidemment dans l'école du quartier. Hein.
Mais justement, par rapport à cette école, est-ce que vous avez sollicité la mairie de Lille ?
Alors, tu vas trop vite, ma chère Fabienne. mais en effet, d'abord, de quelle école s'agit-il ? C'est une école de 400 élèves, donc plutôt une grosse école. Hein, quand il y a une fête d'école à la fin de l'année, ça peut réunir 1000 personnes à peu près. Hein. Donc c'est une école au cœur de quartier, comme on l'a vu, dans une rue coupée à la circulation, en face des seules grandes barres HLM, 100% HLM de cette partie du quartier, et qui occupe un grand espace de 8500 mètres carrés. Hein. C'est face à ça que la ville communique son projet de déplacer l'école sur une parcelle plus petite à la périphérie du quartier, dans la rue Abelard, qui est une rue avec beaucoup de circulation. C'est une rue qui donne accès à l'autoroute, donc plus accidentogène. Et en ce qui concerne l'accès direct à l'école, on est dans une partie du quartier qui est sur une ancienne friche et donc qui est très sujet aux spéculations immobilières. On n'est plus dans le cadre d'un espace où il y a beaucoup de logements sociaux. Hein. Donc face à ça, on monte.
Donc on enlève l'école d'un quartier populaire pour la mettre dans un coin beaucoup mieux favorisé socialement.
Pour la mettre en tout cas dans un coin en devenir qui est en pleine mutation, on ne sait pas trop ce que ça va être à terme. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, qui est sujet beaucoup à la pollution liée à la circulation,
la voie rapide,
etc.
Juste là, quoi.
Et où on voit en effet des immeubles se construire. On n'est plus dans du 100% HLM, hein, mais plus dans du un tiers. Donc on voit qu'il y a une certaine gentrification de cette partie du quartier qui est à venir. Et donc on accélère le processus de mobilisation à partir de mars 2002, parce qu'on voit que sur le
2022
Mars 2022, oui. En effet. Mmh. Parce qu'on voit que est mis à l'ordre du jour du conseil municipal ce déménagement d'école. Donc là, une pétition est signée par 300 habitants. On fait un petit rassemblement en face de l'école pour marquer le coup. Il s'agissait de se faire attendre, de montrer que les experts aussi du quartier, c'est ceux qui y vivent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, dans un premier temps, on est agréablement surpris par la réaction de la ville de Lille, pour répondre à ta question, Fabienne, parce qu'elle décide de mettre en stand-by le processus de déménagement de l'école face à notre mobilisation. Alors nous, on s'attendait à devoir...
Et c'est là que Seb dit, mais vous avez gagné.
Mais oui, vous avez gagné. Alors, dans ce cas-là, c'est bon. La mairie a accepté la discussion et a même sur... J'arrive pas à conjuguer ce verbe.
Surenchéri.
Non, c'est le verbe sursoir. Tu sais que je voulais conjuguer à l'imparfait ou un truc comme ça.
On en a connu d'autres, Seb. Donc, on est au début sceptique. On fait une première rencontre dans le cadre du conseil d'école avec seulement des parents d'élèves. Puis ensuite, une rencontre plus importante avec les habitants du quartier, parce qu'on estime qu'une école, ça ne concerne pas que les parents d'élèves. Hein, c'est aussi un lieu de vie pour l'ensemble des habitants dans un endroit. Et là, on voit que, en effet, on a l'impression que la ville ne joue le jeu. Parce que,
au départ, en tout cas.
Dans un premier temps, parce que, en effet, quatre élus se déplacent et toute une flopée de techniciens qui prennent en compte un scénario alternatif qu'on construit pour pouvoir reconstruire l'école au même endroit. Hein. Donc, pour la faire courte, durant ces échanges, on avance un scénario alternatif qui comprend la reconstruction d'une école sur site avec un planning qui est proposé, avec des périodes où les élèves pourront être scolarisés dans des locaux temporaires.
En gros, vous avez fait tout un plan. Vous avez créé vous avez rédigé la proposition alternative, quoi.
Vous avez fait le boulot de la mairie.
On a fait le boulot que la mairie avait fait dans son scénario, mais dans un autre scénario pour prendre en compte les réalités du quartier. Ça dure 9 mois. Il y a eu plusieurs allers-retours. Et en novembre 2022, la ville rétropédale, nous dit que notre scénario était étudié, mais qu'il n'est pas crédible. Donc, on reste en désaccord sur ce choix encore aujourd'hui.
Mais pourquoi alors que la mairie a-t-elle essayé de gagner du temps dans ce cas-là?
Alors, on peut se poser la question. On a commencé le processus dans un moment où il y avait des élections. Ça peut être
Des élections à venir, c'est ça?
Ouais, où il y avait des élections à venir. Donc ça peut être une raison.
C'était en 2021. On en est où là?
Non, c'était en 2022. Donc ça devait être c'était les régionales, cantonales, ouais. Etc. Donc okay. Voilà. Donc en effet, on était dans un moment un petit peu tendu pour n'importe quel élu, etc. Donc qui doit afficher justement cette envie de concertation. Hein, le mot est utilisé. Ils disent plus trop démocratie participative, ils disent concertation.
Ah oui, tiens.
donc voilà. Fin 2022, on a passé cette période-là. Et fin 2022, c'est aussi les premiers. C'est un moment où la crise économique augmente et où on reparle de baisse de thunes publiques, etc. Enfin, on en parle régulièrement.
Politique d'austérité.
Voilà. Ça peut être ça. On remarque d'ailleurs que le budget proposé au premier conseil municipal est en baisse notable par rapport au budget final qui a été retenu pour l'école. Et nous, on nous fait le reproche que, étant donné que notre projet, c'est de refaire l'école au même endroit, c'est un budget qui était légèrement plus cher que le projet d'école à la base, vu qu'il faut construire du préfabriqué, etc., pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours pendant la durée des travaux. C'est faiblement plus cher, et on propose des solutions techniques, comme la construction de modules d'école hors site, pour pouvoir être assemblés sur site, qui ont été pris en compte par la mairie, mais pour une vocation de baisser le budget de l'école. sans garder, la vocation initiale du projet, c'est-à-dire de la maintenir sur place, quoi, en fait. Mmh. Déçu depuis. Les rencontres publiques sont toujours organisées, mais par la mairie. La dynamique collective perd de la vitesse depuis les 2-3 ans qui nous séparent de ce moment-là. La dernière réunion qui a eu lieu cette année avait pour thème l'aménagement de la rue Orbelard qui serait en face de l'école, et les élus et techniciens ont essayé de nous imposer le stationnement payant.
Bon, on va en reparler justement.
Et pour toi justement, quelles seraient les conditions de bon fonctionnement d'une démocratie impliquant vraiment les habitants?
Donc, concertation, pas démocratie participative,
oui.
C'est
ça. Ouais. Ça revient au même, parce que de toute façon, quand on les pousse sur leur retranchement, ils nous disent mais cette réunion, c'est pas une réunion de concertation, c'était une réunion d'information au final. Donc, ils jouent avec les mots, enfin voilà. Quel bilan tiré de cette expérience, et quel conseil j'aurais des... Alors, tout d'abord, vis-à-vis des assos, ce qu'attend une mairie, ce qu'attend l'interlocuteur institutionnel, c'est des associations, c'est d'animer des événements, c'est pas de créer de la politique. D'ailleurs, une élue nous a dit mais monsieur Lefebvre, pour poser ces questions-là, faut faire de la politique, faut pas militer dans une association. Alors que pour moi, militer dans une asso, c'est aussi faire de la politique. En fait, c'est se poser la question de l'avenir de son quartier. C'est aussi le rôle d'une association, sinon tu casses l'aspect démarche d'éducation populaire, etc. L'interlocuteur, la mairie, n'est pas homogène non plus. Je pense même après coup qu'il y a certains élus qui veulent qui ont joué le jeu et d'autres qui n'ont pas joué le jeu. Je pense que certains élus étaient vraiment sincères dans leur volonté de travailler ensemble sur un projet. Je soupçonne même d'avoir été eux aussi instrumentalisés par des intérêts économiques ou tout simplement par le manque de volonté de leur propre équipe à vouloir changer leur façon de voir. C'est pour ça que moi, j'aurais plus des conseils à donner à tous ceux qui pensent pouvoir prendre la place, vu qu'on va arriver dans des élections municipales, etc., des futurs élus. Oui. Conseil numéro 1, d'abord, soyez un acteur de votre quartier avant de chercher à être un élu. Lille, comme beaucoup de villes, c'est des décennies de parachutage, des décennies de dirigeants qui ne connaissent pas le lieu qu'ils administrent. Ce n'est pas compliqué, il suffit d'entendre un élu parler de faire du terrain pour comprendre qu'il ne vit pas dans le quartier. Moi, je n'ai jamais vu un habitant dire « je fais du terrain » en amenant son gamin à l'école. Conseil numéro 2, arrêtez d'infantiliser les électeurs, les habitants, etc. Au mieux, commencez jamais
vraiment au sérieux,
à les infantiliser. Dernier exemple en date, voici comment un élu de la ville de Lille est venu nous expliquer pourquoi il faut rendre le stationnement payant. Chers habitants, vous allez voir, le stationnement payant, personne n'est pour au début, mais après je reçois des lettres de remerciement une fois qu'il est mis en place.
Faut qu'on nous explique, quoi.
On voit les éléments de langage. Moi, je préférerais un élu, même si je suis pas d'accord avec sa position, qui vient m'expliquer que faut faire du stationnement payant parce que on a des problèmes de gaz à effet de serre, ou bien à la limite que dans un contexte de récession, on a besoin d'outils fiscaux. Bref, nous prendre pour des gens intelligents plutôt que nous infantiliser.
Laurent Lefebvre, candidat en 2026 à Lille, si on comprend bien entre les lignes ce qui vient d'être dit. Non, pas du tout. Encore, je me suis encore trompé.
Pas de votre armée en mode chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, fais-nous mais ça pour... vivant et le gouvernement nous attaque. Vos médias nous boycottent et nous font passer pour des macaques, car on refuse le dressage assis couché debout dans la patrouille. On a des choses à dire et des vraies idées à défendre. Institutions racistes, je perds le monde depuis ma naissance. Libre penseuse comme Yanis, dans une industrie indécente. Pour les frères, restez sur le parvis, pour les sœurs, en quête de vrai sens.
Écoutez-nous.
Avant que le dialogue soit annihilé, sais-tu ce que c'est grandir dans les inégalités? Tu sais, la frustration prend forme et les rêves brisés transforment les extraits vers un braqueur ou mec radicalisé. Écoutez-nous.
Vous avez tendance à jouer les étonnés. La vue ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Tellement habitué à vivre dans votre inégalité. Plus rien ne vous gêne, donc c'est à nous de tout changer.
Vous faites que parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée.
Fatigué chaque jour que tu fais de devoir, je découle. Je suis décidé, j'ai mes idées, quoi qu'il en coûte. Je viens poser, faire exploser un système qui me dégoûte. Il nous pousse à bout et il nous roule dans la boue. Le tout pendant qu'il s'accoule nous,
ça craque dans la foule.
Nos droits on bafoue pendant qu'on s'écroule sous les coups. Garde à vue, garde à vous, ghetto youth. Écoutez-vous, je vais pas te détailler tout ce qu'on subit comme misère. La liste est trop longue, on en aurait pour l'hiver. Mais s'asseoir à trois sur un homme, monsieur le commissaire, toi tu n'appelles pas ça une bavure policière. Alors c'est comme ça on peut se passer de vous. Alors écoutez, écoutez-nous. On vous prévient que la jeunesse est
pour vous.
Vous faites parler, écoutez-nous. On veut pas de votre armée en bas de chez nous. Viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
C'était Yanis Odoua et Kenny Arcana. Écoutez-nous.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
On a passé un coup de fil à Aude Van Est. Bonjour Aude Van Est, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour, je vous entends très bien.
Est-ce que les auditeurs nous entendent ?
Oui, oui, on l'entend, parfait.
L'attente d'une grande clameur de la métropole qui fait « ouais, 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 ça, okay. Le stade ». Bien, alors, pour vous présenter, vous êtes membre du collectif du Square. Là, on est plutôt dans le quartier de Lille-Five, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et votre association ressemble pas mal à celle qu'on a maintenant sur le plateau. Vous ne pouviez pas venir en présence, mais on vous remercie de nous répondre. Laurent Lefebvre nous a parlé de la question du stationnement payant à Lille, et vous étiez assez à l'initiative d'un collectif de mobilisation contre ce stationnement payant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots ?
Oui, ben, nous aussi, on reproche à la municipalité d'avoir imposé ce stationnement payant sans concertation. Et quand bien même, une fois qu'il était là, ça générait des difficultés pour certains professionnels, commerçants. Et les riverains sont mécontents aussi, à Five et dans les autres quartiers. Et la mairie a finalement bien voulu nous recevoir, mais comme tout était déjà décidé, rien ne... Il n'y a rien qui a pu être fait en notre sens.
Oui.
Donc, l'association est là pour défendre les intérêts du quartier de Five, mais aussi être solidaire avec les autres quartiers de Lille. Et elle a essayé d'informer au maximum les riverains de ce qui allait arriver. Et maintenant que c'est là, elle soutient une action en justice qui, heureusement, a pu être mise en place par un télérecours administratif citoyen en 2022. Et elle a également fait quelques événements dans les quartiers comme Moulins aussi, Oisem. On est en lien aussi avec Saint-Maurice-Pelvoisin.
Alors là, vous êtes donc au tribunal administratif et vous attendez sous peu finalement une décision du TA.
Tout à fait. D'ailleurs, on invite les auditeurs s'ils veulent assister à l'audience. C'est prévu le mardi 10 juin à 9h au tribunal administratif. Donc c'est au 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire à Lille. Et voilà, là c'est pour nous le verdict et on espère que ce sera en notre faveur, même si on sait que c'est un combat assez difficile sur ce sujet.
Donc rappelez-nous la date.
C'est le mardi 10 juin à 9h.
Donc vous appelez à s'y rendre.
À venir assister, à s'y rendre, voir ce qui va en être dit. Et puis ce sera l'occasion aussi d'échanger, pourquoi pas, sur le sujet. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est fédérer tous les quartiers. et se faire connaître, mais voilà, c'est pas forcément évident, et on remercie d'ailleurs la presse, la radio, de faire parler de nous.
Mmh. Ben alors justement, on voudrait bien comprendre quel est le fond du combat, hein. Vous parlez des commerçants qui sont gênés, mais bon, c'est pas forcément le bon critère. Si c'est contrebalancé par l'idée qu'il va y avoir moins de voitures, on pourrait se dire que ben, le stationnement payant, c'est une bonne chose. Est-ce que vous défendez un combat anti-écologique d'un certain point de vue ?
Alors justement, non, nous ne sommes pas favorables à la voiture, bien au contraire. Moi-même, je suis cycliste et je fais le maximum pour utiliser mon vélo ou les transports en commun. Mais il y a quand même des incohérences dans cette décision. Par exemple, le riverain, s'il paye un stationnement pour sa voiture en journée, est-ce qu'il va être motivé pour aller payer également un stationnement de transport en commun ou de vélo ? Il aura tout intérêt à prendre sa voiture pour aller sur son travail s'il ne paye pas de stationnement. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que je constate, et on est d'autres à le voir, c'est que la journée, bah, les riverains, ils prennent leur voiture. Certes, ils laissent de la place, il n'y a plus de voiture, mais ils reviennent le soir. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, ils ont généré de la pollution. Alors, mieux valu offrir peut-être un abonnement gratuit pour la première voiture. Ça, c'était une idée.
Mmh. Mais est-ce
oui. Pour les professionnels et commerçants, il y a quand même certains qui sont impactés parce qu'ils doivent transporter notamment une prof de danse, ses instruments ou ses costumes. Donc, elle voudrait bien accéder à un abonnement, mais ça lui est refusé. Il y a le garagiste qui est un garagiste solidaire, qui est proche de ses clients, qui est là depuis des années. Et en fait, il demande quelques places devant son garage pour pouvoir continuer son activité. Et là, pareil, on lui répond pas de solution. Voilà, mais il y en a tant d'autres. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écoute, pas de solution. On a l'impression vraiment que c'est histoire de récupérer de l'argent, surtout dans les quartiers populaires ou les zones résidentielles, bah là où les familles rendent visite, où les personnes aidantes, bah c'est un frein, c'est un stress, on est là à se limiter dans le temps pour rendre visite, à toutes les heures à remettre de l'argent parce que ça coûte moins cher de mettre une heure par une heure que de payer sur sa journée. Donc tout ça, c'est des contraintes et qu'on ne prend pas en compte.
Alors j'ai une question à Laurent Lefebvre qui a parlé juste avant, qui disait que la mairie avait instrumentalisé leur combat au profit de la défense du stationnement payant. Mais vous, est-ce que vous avez une position dans l'association des deux faubourgs contre le stationnement payant aussi ?
Non, on n'a pas de. D'ailleurs, c'est clivant au sein de notre association. Ouais. Il y a des habitants qui sont pour, justement, pour pouvoir garer plus facilement leur véhicule, d'autres qui sont contre. Je constate quand même, on est dans un quartier en périphérie de Lille, hein, à Lille Sud, et je constate que les personnes qui ont le plus besoin de leur voiture sont souvent ceux qui sont le moins aisés, parce que ceux qui travaillent en dehors de la ville, voilà. D'autre part, par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler d'aménagement public. Oui, on est pour, et ça ne s'oppose pas de mettre des pistes cyclables et d'aménager la voirie pour des transports d'eau. Par contre, ça pose la question des parkings à Lille, et je pense que la ville de Lille a fait, il y a bien des décennies, le choix politique de confier l'ensemble de ces parkings au privé, AFH et compagnie, et qu'on en paye les pots cassés de nos jours.
Mmh. Moi, j'ai quand même une petite question à vous poser. Je ne sais pas si vous m'entendez, madame.
Oui, je vous entends.
Oui, je voudrais savoir, pourtant, sur le plan du transport, l'avenir, c'est quand même pas la voiture qui est dangereuse, qui coûte cher et qui nous tue, en réalité, de beaucoup de façons différentes. C'est plutôt le transport en commun. Est-ce qu'un combat pour le transport, c'est pas plutôt un combat d'avenir, c'est pas plutôt celui pour les transports en commun gratuits ?
On a suggéré ça aussi dans notre pétition qu'on avait lancée en ligne. C'était d'aller plutôt vers la gratuité des transports en commun qui cesse d'augmenter, hein, finalement, les tarifs. Le développement des pistes cyclables, c'est vrai que là, c'est en cours, mais surtout, on remarque, c'est dans tout ce qui est le centre-ville. Voilà, on aimerait bien dans les quartiers à la périphérie parce que être à vélo, c'est aussi dangereux là actuellement, et de se déplacer notamment en famille. On hésite des fois à prendre le vélo en famille parce que bah voilà, les pistes cyclables sont parfois encore avec les automobilistes. Donc il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là, et on les encourage bien sûr à aller dans ce sens. Mais on voit bien aussi que le métro actuellement, c'est quand même très compliqué avec les pannes à répétition. Donc on se demande s'il aurait mieux valu ne pas mettre le paquet sur ces alternatives avant d'instaurer ce stationnement payant.
Merci beaucoup Aude Van Est. On va enchaîner dans la discussion avec nos invités. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir à tous.
Pour moi, la base, la cellule de base de la démocratie en France est la commune. Et je n'aime pas et je veux combattre le processus de métropolisation qui est en cours, qui est la forme de l'organisation générale du territoire favorable à la concentration du capital et des moyens que la grande finance met en place pour concentrer et accumuler. Et c'est dans le cadre de cette métropolisation qu'il se crée cette chose incroyable qui est que les centres deviennent très chers, la périphérie moins chère, et que cette périphérie s'éloigne sans cesse à mesure que le taux du foncier augmente. Par conséquent, la métropolisation est en soi une mauvaise chose.
C'est toujours l'heure des proles dans On passe au rouge, le lundi de 19h à 20h, tous les derniers lundis du mois.
Ça, c'est notre deuxième devinette qui vient de parler.
Martine Aubry.
Eh non, loupé.
On l'a reconnu.
On l'a reconnu.
Il n'irait pas par Chon.
Voilà, exactement. Oui, bien sûr, c'est Mélenchon.
Yolande Windels, vous venez de gagner le droit de répondre à nos questions. C'est vous qui nous avez parlé de ce concept de métropolisation qui se retrouve aussi dans les autres, dans les luttes de nos autres invités. Dites-nous en quoi ça pose un problème à Lille.
Alors, ce qui est intéressant actuellement, c'est que beaucoup de personnes en reviennent de cette métropolisation qui a commencé il y a une bonne trentaine d'années. Et donc, ça, c'est un bon point. Le problème...
En gros, c'est quoi? Parce qu'on a entendu Mélenchon nous en parler, mais peut-être à brûle-pourpoint, c'est un peu difficile. Dites-nous, en gros, qu'est-ce que c'est?
La métropolisation, c'est effectivement une concentration des richesses sur une grosse ville ou plusieurs grosses villes, et de fait les populations les plus pauvres, modestes, sont rejetées à l'extérieur de ces périmètres où on concentre les emplois privés, les sièges sociaux. On a vu sur l'île du temps de Mauroy et de Martine Aubry, donc tous les sièges sociaux qui ont été concentrés, même les sièges administratifs. Alors il y en a quand même quelques-uns qui sont partis, LMH par exemple est parti sur le site de l'Union, mais à force de concentrer les emplois, de faire par exemple des pôles d'excellence. Alors les pôles d'excellence, ça paraissait sympathique au départ, mais là aussi, en fait, on concentre l'emploi, et de ce fait-là, les villes sont engorgées. Là, aujourd'hui, je pense que les gens qui viennent en voiture à Lille, qui viennent encore en voiture à Lille, ils sont arrêtés des Armentières, même avant Libercourt, etc. Parce que donc ça engorge tout. Donc c'est malsain, en fait, ce concept de regrouper pour avoir de la force, mais à un moment donné, ça se retourne sur le territoire, et surtout, ça fait que quand on a pris les emplois, on ne peut pas les reventiler. Le rôle de la MEL, c'est justement, en fait, de faire de l'aménagement du territoire et de répartir l'emploi, parce que comme ça, on répartit les richesses, et on n'a pas besoin de densifier à mort des quartiers comme nous, là, voilà, sur Bois Blanc, par exemple.
Et justement, sur Bois Blanc, à Lille Intramuros, en quoi concrètement cette métropolisation est-elle un problème ?
Nous avons un pôle d'excellence qui attire énormément d'emplois. Je ne sais plus où on en est aujourd'hui. J'ai oublié de citer Euratechnologie. Et donc, en parallèle, comme le secteur de Bois Blanc et de Marais sont des anciens secteurs post-industriel avec énormément de friches. Donc, il y avait la volonté de se resservir de ce foncier, ce qui en soi n'est pas idiot, hein, mais pas dans les volumes décidés. Pour faire un exemple, la première phase des rives de la Haudel autour de RAT Technologies, c'est un périmètre de 25 hectares et un droit à construire de 150 000 mètres carrés. La deuxième phase, qui vient tout juste à côté, elle fait 13 hectares, donc on va dire la moitié de 25 hectares, d'accord ? Et c'est toujours 150 000. Donc on va doubler ce qu'on voit aujourd'hui, qui n'est pas complètement fini. Ça va doubler, voire ça va être un peu plus, parce qu'il y a 50 000 mètres carrés, j'arrive pas trop à les situer, mais j'ai l'impression que c'est la deuxième phase qui va se les prendre.
Mais donc... Pourtant, en tant que Lillois, vous pourriez considérer que vous bénéficiez quand même de cette métropolisation.
Alors, c'est le problème de la justesse de ce qui est fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces friches, c'est vrai qu'on peut aimer les friches, moi j'ai beaucoup aimé habiter à Bois-Blanc du temps des friches, mais le fait de faire venir de nouvelles familles, ça a permis de re-remplir les écoles quand même, qui étaient sous-utilisées. Donc oui, il y a un moment donné... Ça, c'est intéressant. Là où le bas blesse, c'est quand ça prend des proportions, comme je viens de l'indiquer, c'est-à-dire que là, ils vont doubler le chiffre d'affaires, des promoteurs. Et donc là, en fait, ça ressemble plus à une grosse opération immobilière que de réaliser un nouveau quartier.
Laurent Lefebvre, votre combat contre le déménagement de l'école Moulin-Pergaud, c'était aussi un combat contre la pollution, finalement, qu'on fait subir aux enfants. On se retrouve dans la lutte contre ces projets immobiliers pharaonesques que vous combattez, Yolande Windels, on peut faire un lien.
Oui, en effet, et d'ailleurs je pense qu'il y a un lien entre le fait de voir la ville et le territoire de haut et de pas savoir ce que c'est que respirer, que de marcher, que de vivre dans un quartier. Un truc simple, hein. Il y a des ambiances de rue dans les quartiers, et on nous l'a beaucoup dit, mais en fait l'école elle va être située qu'à 400 mètres ou 500 mètres, je sais plus, à vol d'oiseau, ça a l'air pas énorme, sauf que dans la réalité des gens, ça change tout. Ça change le fait, par exemple, que des enfants vont être amenés à l'école en bagnole parce que l'école sera près de l'autoroute et donc ça va créer plus de pollution. Ça, s'il n'y a pas le témoignage citoyen, s'il n'y a pas l'expérience de vie, on n'y arrive pas.
Jean-Michel, vous à l'association Parc, la lutte contre la pollution, ça vous parle? Et la lutte contre la métropolisation aussi, hein, c'est bien ça?
Oui, effectivement, c'est des thèmes qu'on a aussi largement étudiés et mis sur le débat. Sur la métropolisation, bien effectivement, par exemple, il y avait simplement cette histoire de piscine et de parc aquatique avec une fosse de plongée énorme et qui était en concurrence par exemple avec Dunkerque ou qui était en concurrence avec d'autres fosses de plongée qui étaient d'ailleurs pas loin derrière la Belgique. Pourquoi d'ailleurs même la métropole, une concurrence à l'intérieur de la métropole? Pourquoi mettre autant de piscines à Lille alors qu'en fait il y a un besoin partout dans la Melle de ces piscines? Donc ça, cette concurrence, cette atrophisation quelque part à un endroit précis, ça pose question. Et bien évidemment, alors la pollution, là aussi, on l'a largement décrite, effectivement, toujours pour faire le lien d'ailleurs avec cette piscine, on a démontré aussi à Parc Saint-Sauveur, en étudiant les choses, on n'a pas sorti les informations de nulle part, c'est qu'effectivement, placer une piscine, en tout cas un énorme parc aquatique avec une piscine plein air, à côté de l'autoroute, eh bien, c'est tout simplement assez aberrant. Donc voilà, du coup, la pollution de l'air, on en parle à ce niveau-là, mais on en parle aussi simplement sur c'est quoi l'intérêt de rajouter une activité des habitants, des commerces, des bureaux concentrés dans un endroit. Bah forcément, ça amène de l'activité, ça amène de la pollution. Donc là aussi, c'est ces mêmes aspects qui sont défendus.
On se retrouve dans quelques minutes pour continuer la discussion dans le cadre de l'heure des proles avec tous nos invités.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en modulation de fréquence libre.
C'est André Mainviel et Mounir Troudi, Démocratie de Sickfire.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
C'est toujours l'heure des pros, dernière partie, le lundi 19h, une fois par mois, le lundi quoi. Voilà, je t'ai déjà dit ça.
Ouais. Mais on n'arrête pas de le dire. Juste avant de parler avec l'association Parc et Jean-Michel qui la représente, Yolande Windels, vous voulez rajouter quelque chose sur la question de la métropolisation et de la lutte de l'association De l'air sur Bois Blanc?
Alors en fait, je voulais rebondir sur la pollution parce qu'effectivement, nous sommes aussi avec des sols forcément très pollués et un air très vicié puisque nous avons l'autoroute A25 qui nous borde. Et puis, on a encore quelques entreprises. Et je pense savoir que le maire de l'Homme vient de déposer une plainte contre X parce que actuellement sur le bout du quartier du Marais, il y a eu des relevés que la ville a fait parce que la préfecture ne les faisait pas, si j'ai bien compris. Et donc il y a des taux de dioxine qui ont été repérés. Et je voulais quand même aussi dire que par rapport à la démocratie participative, c'est vrai que c'est pas simple.
Vous aviez la mairie en face et la mairie aussi. Hein.
Oui, nécessairement. Hein. À chaque fois que les grosses opérations comme Saint-Sauveur sont des opérations qui sont portées par la mairie parce que c'est là qu'il y a l'argent. Donc par rapport aux élections d'ailleurs, il va falloir se préoccuper de savoir quel est le programme des élus de la mairie.
Parce qu'il n'y a pas de démocratie directe.
Non, voilà. Donc ça, c'est important.
Pour élire les...
Voilà, donc j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Donc ça, c'est quand même un gros sujet. Et encore une fois, l'argent est plutôt à la mêle que dans les villes, même si certaines villes sont plus riches que d'autres. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons donc à De l'air une expérience relativement récente de la démocratie participative, en tout cas de nous considérer comme citoyens, hein, puisqu'on s'est créé en 2022. Là où donc on a apporté une lutte, ce sont des opérations qui étaient déjà bel et bien enclenchées. Donc quand on arrive Un peu tardivement, c'est difficile de faire bouger les lignes, mais on y a réussi. Et je voulais donner un message d'espoir, c'est que en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a appris beaucoup de choses, et donc on a appris à être citoyen. Et donc, par rapport à ce grand projet des rives de la Haute-Deule, dont on sait qu'il va encore se décliner sur de nombreux hectares, eh bien, ça va nous permettre d'être plus à l'aise pour faire ce travail, donc de démocratie participative, et de se sentir préoccupé par la ville telle qu'on veut la faire. Et donc, par rapport, par exemple, à des sujets qui vont arriver, il y a un boulevard industriel qui va nous tomber sur le nez, donc ça paraît évident qu'il faut lutter contre ça. On a besoin d'espaces verts, nous avons fait un calcul. À minima, il nous manque 13 hectares d'espaces verts publics de proximité de style square. Donc, on a repéré des endroits. Et on a notamment repéré sur le Marais une usine qui s'appelle Mosley, qui est donc en friche. Et donc, là, on va lutter. Et je pense qu'on sera plus armés.
Dans une lutte très proche de celle de l'association Parc.
Mais Jean-Michel, donc, pour l'association Parc, où en est le projet aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, les travaux sont toujours pas lancés. À Parc Saint-Sauveur, on se targue d'avoir retardé complètement tout ça, voire peut-être même arrêté. Quelque chose qui devait sortir de terre il y a déjà 4-5 ans, en fait, n'est toujours pas sorti de terre. La seule chose qui évolue, c'est le parc, effectivement. Du coup, un peu moins de 4 hectares qui étaient prévus. Et donc, on est quand même content, effectivement, qu'on commence en tout cas par ce parc. Et il y a toujours un recours au tribunal qui est actif. Donc, en fait, tant que la mairie...
Contre quoi, précisément ?
Alors, contre l'intérêt général. En fait, alors c'est une longue histoire juridique, mais effectivement, Parc a gagné en 2018, tout d'abord de suspendre le projet, puis en 2021...
Le projet piscine.
Ah non, c'était le projet total. Le projet total. Parce qu'effectivement, alors ça fait partie des aberrations. La fosse, ou en tout cas l'empattement de la piscine, n'était pas prévu initialement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on parlait de démocratie. Bon, il y a eu une démocratie, une enquête publique qui a été faite, mais sur un projet qui n'était pas celui qui devait être fait. Donc en fait, il a fallu. Donc on a gagné en 2021. La mairie et la MEL, enfin en tout cas les promoteurs, ont dû refaire une enquête publique en intégrant justement l'espace aquatique. Et puis, à nouveau, en fait, ils ont dû redémontrer l'intérêt général, puisqu'ils avaient perdu une première fois, hein, notamment sur les aspects d'eau.
Et précisez-nous, hein, ça se fait au tribunal administratif.
Tout à fait. Alors, c'était l'intérêt aussi de Parc Saint-Sauveur. En fait, un Parc Saint-Sauveur, c'est ni plus ni moins aussi que, comment dire, la possibilité d'aller au juridique et de bloquer réellement, avec aussi tous les arguments, mais c'était l'expression d'un collectif qui existait depuis 2016. Hein. Faut quand même se dire que tout ça n'est pas arrivé comme ça par enchantement. Voilà, il y a une longue lutte, une longue contestation des habitants. Et donc, effectivement, bah voilà, du coup, ce recours qui a été reporté encore une fois en 2022, suite à la deuxième enquête publique, eh bien, ce recours, il est toujours actif. Donc en fait, voilà, il y a une espèce de stagnation.
Alors, vous avez l'impression qu'en face de vous, rien ne bouge. Ça pourrait bouger.
Rien ne bouge, en fait. Voilà, ce qui a été fait, c'est par exemple de fermer complètement l'accès au Belvédère. Donc les gens qui habitaient autour, qui avaient accès au Belvédère, qui est un super endroit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Lille. Alors malheureusement, maintenant, on le regarde à travers
les lignes. C'est là où il y avait le phoque en palette.
C'est le phoque en palette, mais c'était surtout un des plus beaux sunsets de Lille, puisqu'effectivement, il y a un monticule et en fait, une super vue sur le coucher de soleil. Si vous voulez vous donner un petit peu une idée de ce que pourrait être ce parc et de ce que pourrait permettre ce parc, qu'on estime beaucoup plus grand, c'est aller tout simplement au cours Saint-Saul, dans la partie la plus au fond, au niveau du jardin. Et si vous vous tournez, bah, vous voyez en fait déjà les débuts de la forêt, puisque cette friche dont on nous expliquait qu'effectivement elle était déjà bétonnée, cette friche dont on nous expliquait qu'elle était polluée, eh bien la nature a repris ses droits, nous-mêmes, tous les collectifs qui sont autour hein, de Parc Saint-Sauveur, et bien tous ces collectifs, ils ont aussi participé à replanter des arbres. Voilà, donc et puis il y a beaucoup de nature hein, déjà présente.
Mais tout cela a l'air bien sympathique, mais vos luttes n'ont-elles pas comme conséquence aussi de limiter le nombre de logements disponibles et d'augmenter le prix de ces logements?
Vous luttez pour des espaces verts, mais des espaces verts, qui dit espace vert dit pas de bâtiment dessus.
Et oui. Vous avez tout à fait
raison. On aurait pu avoir du logement social, je ne sais pas.
C'est effectivement des choses assez classiques et puis des questions qu'on s'est légitimement posées. Alors, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais bon, c'est quand même toujours important d'avoir quelques chiffres. Hein. Je parle beaucoup là de métropolisation, de pollution, de ce qu'on laisse aussi voilà, à l'avenir. Alors, deux chiffres. Eh bien, effectivement, sur les 2500 logements qui étaient prévus, eh bien, il faut savoir que 187 logements étaient prévus comme des logements sociaux. 187 sur 2500, c'est 7,5%. Très, très peu.
Ça ressemble un peu à la situation de Bois-Blanc, d'ailleurs.
Alors, juste un deuxième chiffre. Et Yolande, je suis sûr, pourra effectivement pousser, c'est qu'en fait, pourquoi on parle de 187 logements sociaux? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, à Lille, ce dont on a besoin à Lille et en métropole proche, c'est 80% de la demande, c'est des logements sociaux. Ben oui. Donc comment, en fait, quand on nous dit qu'effectivement, on ne crée pas de logement, nous, à la rigueur, à Parc Saint-Sauveur, et je pense à Delaire aussi, enfin voilà, toutes ces associations qui réfléchissent un petit peu à tout ça, n'ont pas trop de soucis à parler de logements, mais les logements dont on a réellement besoin.
Alors voilà. Que Martine Aubry a supprimé en volume hein, des logements sociaux là, depuis son arrivée.
Plusieurs catégories de logements sociaux en plus.
Oui, alors il y a les logements sociaux et les logements très sociaux qu'on appelle PLAI ou type PLAI. Mais c'est vrai que nous, sur Parc, il y a eu des logements sociaux qui ont disparu. Sur Bois Blanc, 350 vont disparaître. Ils en feront peut-être une petite centaine. Il y a Concorde aussi, qui est une opération énorme. Enfin, là, c'est 1500 logements très sociaux. Donc, nous, c'est pareil. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, on veut plus de nature en ville, moins de béton, mais du logement abordable pour tout le monde. Donc, oui, on a dit à Martine Aubry, on est pour le logement, mais le logement social, puisque c'est ce qui nous manque, et le logement très social. Là, on a une opportunité, parce que, en fait, parfois, quand les choses traînent, un contexte change, et donc, on a des opportunités. Et là, aujourd'hui, on a l'opportunité que le marché du bureau, parce que vous aviez à Parc énormément de bureaux.
20 000 mètres carrés. 20 000.
On en a plein. Donc là, c'est fini, quoi. On a un immeuble de 6 000 mètres carrés qui a été livré neuf en 2021, qui n'est toujours pas utilisé. Et donc, on a l'opportunité juste en face de celui-ci et à côté d'Aura Technologies. Et donc, je pense que là, Lamel, de toute façon, elle voit les chiffres hein, du marché du bureau qui se scratch. Donc, on a un très beau terrain qui était prévu pour faire des bureaux. Et nous, on milite pour qu'il y ait du logement, mais du logement très social en proportion, pas à 5%, parce que c'est ce qui se passe. Hein. C'est,
on aura l'occasion 7%. D'en parler, puisque la lutte est en cours. Laurent Lefebvre, vous voulez ajouter un dernier point là-dessus?
C'était à propos des piscines. Dans un premier temps, je m'étais dit pourquoi ils ne veulent pas une piscine à Saint-Sauveur. On en a besoin. On a besoin de piscines de quartier, évidemment, pas de piscine pour des Jeux Olympiques. En fait, en réfléchissant un peu, je me dis mais il y a une piscine à Lille-Sud, on ne peut juste pas y accéder parce que le réseau est en étoile. C'est plus facile quand on est dans notre partie de Lille-Sud d'aller à Gare Lille-Flandre que d'aller à la piscine de
Donc les réseaux de transport sont mal conçus aussi.
Le problème, il est peut-être là.
Oui, et puis nous, sur Bois Blanc, on a une piscine Max Dormois et tout à coup, alors qu'il était prévu de la réhabiliter, elle est partie sur Saint-Sauveur. Et puis on sait qu'effectivement, on a besoin, parce que visiblement, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager, parce qu'on commence à être sous-occupés. Sous-doté, voilà. Donc, c'est pas du tout la formule qu'il fallait mettre en place à Saint-Sauveur. Et en tout cas, à Bois Blanc, on aurait bien aimé conserver la piscine.
On était avec Jean-Michel de l'association Parc Saint-Sauveur, qui a gagné sa lutte. Yolande Windels de l'association Delaire, qui va bientôt gagner sa lutte. Et l'association de Faubourg, qui gagnera ses prochaines luttes.
Et puis, on avait aussi Aude Van Est hein, au téléphone.
Bien sûr.
Voilà, on passe au rouge. C'est terminé dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Milky pour Rien n'a encore changé. Dis-moi, Milky, toi, t'es con?
C'est toi le con.
Ah ouais.
préparé ça, dis donc.
21h, c'est start avec Phil, et 22h, bien sûr, le Kaléidoscope Culture Plus de Hervé de Lille. C'était une spéciale pour lui, de 22h à minuit, en direct, comme tous les lundis soirs. Des annonces, Fabienne, pour terminer cette émission.
Oui, donc, pour reprendre l'annonce du collègue de tout à l'heure, rendez-vous au tribunal administratif le 10 juin à 9h contre le stationnement payant. Et sinon, consultez régulièrement l'agenda de l'association France-Palestine Solidarité 59-62 avec l'accélération des événements en Palestine et la volonté évidente de Netanyahou de tout nettoyer. Il ne saurait tarder à y avoir des rassemblements. Rappelons-le simplement que l'UNICEF a annoncé 14 000 bébés morts entre le 20 et le 22 mai.
Peut-être l'annonce du 5 juin, Fabienne. Le 5 juin, une mobilisation sociale partout en France et à Lille.
Oui, mais nous n'avons pas encore ni l'heure ni le lieu.
Ah, ok, très bien. Mais ça concerne qui ? C'est tous les salariés ? C'est
oui,
la fonction publique ? C'est qui ?
Ça sera tout le monde, a priori.
D'accord, il faut déjà réserver son
billet.
Son jeudi 5 juin, quoi.
Voilà, c'est ça.
Salut, à lundi 19h pour un nouveau numéro de On passe au rouge. C'était une émission avec Fabienne et Seb, réalisée par Jean-Jacques.